7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes en direct, nous parlons éducation comme chaque vendredi. C'est bientôt la rentrée scolaire et forcément les parents, les enseignants se posent beaucoup de questions sur les mécanismes de l'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de parler des neurosciences. Comment fonctionne le cerveau des enfants et pourquoi il faut désormais en tenir compte pour enseigner à partir des découvertes des neurosciences. On sait désormais comment marche la motivation, comment entraîner la concentration, la mémorisation, pourquoi tel enfant est lent quand il travaille, à partir de quel moment il faut se préoccuper par exemple d'un enfant qui ne parvient pas à écrire lisiblement. On va en discuter avec nos invités, spécialistes des neurosciences et des apprentissages. Bonjour Michel Mazot.
Bonjour.
Vous êtes médecin, spécialiste des troubles cognitifs chez l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie, troubles cognitifs? On va le rappeler.
Ça veut dire les troubles dans différents domaines de l'intelligence et des apprentissages.
Voilà. Ça peut être les dyslexies.
Ça peut être, oui, le langage oral, les gestes, la spatialisation, la lecture, le calcul, etc.
Et vous venez de publier « Dans le cerveau de mon enfant » et « Bien apprendre à l'école » qui applique ce qu'on sait des neurosciences aux éditions Auray. Également avec nous, Hervé Glazel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur polytechnicien reconverti dans l'éducation il y a plus de 10 ans. Maintenant, vous êtes neuropsychologue. Vous avez fondé il y a 10 ans les écoles du CERN. Le CERN, c'est le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, où on peut consulter pour son enfant et puis on peut aussi scolariser son enfant s'il a de réels troubles de l'apprentissage à Paris et puis maintenant à partir de cette rentrée à Lyon où vous démarrez une toute petite cellule. Vous recevez donc des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage du CE1 à la 3e, hein, c'est bien cela?
Tout à fait, hein, donc des enfants qui sont pertinents, hein, qui ont tout à fait les moyens de suivre une scolarité mais qui sont gênés justement en fait par un trouble cognitif, on vient d'en parler. Une difficulté très spécifique dans un domaine pour accéder par exemple à la lecture ou à l'écriture.
Mais tous ces enfants que vous recevez qui ont des troubles n'ont pas d'incapacité à apprendre. C'est bien pour ça qu'ils vont rester dans votre école.
Tout à fait, c'est souvent dit souvent, pour être dyslexique il faut être intelligent, c'est-à-dire que réellement ce sont des enfants qui ont accès au concept mais qui sont très gênés par le format sous lequel en fait on va leur proposer les apprentissages. Et c'est toute l'astuce d'utiliser les neurosciences en fait pour décortiquer les tâches et proposer quelque chose d'accessible aux enfants.
Alors, évidemment, la particularité de vos écoles, c'est que toutes les méthodes d'enseignement s'appuient sur les connaissances récentes des neurosciences. Et vous allez nous dire tous les deux comment, quand on comprend mieux les troubles, on peut aider aussi tous les autres à partir de ces connaissances en neurosciences. Et quant à vous, les voisins, c'est l'occasion de poser toutes vos questions au 33 1 84 22 71 71. On est également sur WhatsApp, c'est le même numéro de téléphone et vous pouvez aussi nous laisser des messages. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, pourquoi les enfants mentent. Je ne sais pas s'il y a des explications neuroscientifiques là-dessus. En tout cas, les pédopsychiatres. Et elle répondra à cette question tout à l'heure pour sa chronique.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, nous partons au standard 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur de Douala au Cameroun. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour.
Jean-Bernard, vous êtes enseignant d'anglais en école primaire et vous avez une première question pour nos invités.
Oui, ma première question concerne le fait que quand les enfants ne font pas la maternelle, est-ce que ça peut pas être un handicap pour la suite du processus d'apprentissage?
Alors, il faut préciser que sur le continent africain, seule une minorité d'élèves vont à l'école maternelle. Hein. Donc, ce qui voudrait dire que l'immense majorité des enfants seraient donc victimes d'un handicap dès le démarrage. C'est ce que vous pressentez, Jean-Bernard?
Oui, c'est ce qu'on constate.
À l'école primaire où vous enseignez, vous voyez une grosse différence entre les enfants qui ont fait l'école maternelle et ceux qui ont commencé l'école directement en CP?
On l'observe très tôt d'ailleurs, très tôt. On sait qui n'a pas fait la maternelle, celui qui a fait, il l'a passé.
Difficulté scolaire donc, hein? D'accord. Jean-Bernard, merci pour cet appel. Michel Mazot, vous répondez à cette question?
Oui, alors je crois qu'il y a deux niveaux de réponse. Je ne crois pas qu'on puisse parler de handicap parce qu'on n'a pas fait la maternelle. Je pense que les enfants même sans aller à l'école, ils évoluent, ils apprennent. On sait que, justement, les neurosciences nous ont montré à quel point les bébés étaient curieux, les enfants sont curieux, et même quand ils ne vont pas à l'école, en permanence, ils apprennent. Et donc, en permanence, ils apprennent des choses. Simplement,
ils apprennent. En regardant le monde qui les entoure.
En regardant et en expérimentant. Ils regardent, ils expérimentent, ils essayent, ils comprennent, ils parlent, etc. Mais ils n'apprennent pas les mêmes choses. Hein, ils n'apprennent pas des choses. Quand on va à l'école maternelle, on apprend toutes ces choses, bien sûr, mais on apprend aussi un savoir organisé en fonction justement de ce qui est demandé par la suite dans une société donnée à l'école. Et donc ces enfants n'apprennent pas les mêmes choses. Donc effectivement, je comprends très bien la question de monsieur, parce que quand ils arrivent ensuite à l'école primaire, il y a un certain nombre de savoirs ou de façons de raisonner, de façons d'expérimenter, de façons de comprendre le monde auxquels ils n'ont pas été confrontés. Et donc peut-être là, il faudrait presque une espèce de petit sas, un précepé, j'allais dire, de façon à permettre à ces enfants de faire ces expériences plus scolaires.
Rethéoriser ce qu'ils ont appris par eux-mêmes, tout seuls, en regardant.
Exactement.
On peut expérimenter les lois de la gravité. Oui, un enfant, quand il laisse tomber un objet, c'est déjà...
Bien sûr, mais tout le monde n'est pas Newton, donc on ne va pas retrouver en fait les lois. Si vous voulez, l'immense avantage de la maternelle, c'est de rééquilibrer aussi les différences sociales. C'est-à-dire que quelque part, on sait qu'un enfant de 3 ans, selon la catégorie socio-professionnelle des parents, vont maîtriser les plus avancés jusqu'à 1000 mots, alors que dans d'autres milieux, ils ne vont en maîtriser que 500. Or, on sait que c'est prédictif, ensuite, du succès scolaire, en fait, et professionnel des enfants plus tard. D'où l'idée, si vous voulez, que la maternelle est un moment excellent pour donner à tout le monde les mêmes chances, parce qu'ils auront tous les mêmes stimulations organisées, structurées, et leur permettront de rentrer de plein pied dans les apprentissages.
Et en particulier pour commencer à stocker des mots, donc, tout simplement, accéder au langage.
Oui, des mots, des concepts, et justement, ce que vous disiez qui est très intéressant, c'est-à-dire de conceptualiser leurs expériences dans un certain format qui va être celui qui va être utilisé ensuite à l'école. Alors bien sûr, quand il n'y a pas d'école maternelle,
ce qu'on peut dire à des parents qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants à l'école maternelle parce que bien souvent elle est payante et qu'elle est coûteuse, c'est qu'il faudrait dans ce cas parler au maximum avec son enfant petit, c'est ça,
Absolument.
Et lui permettre au maximum d'élargir son langage et son vocabulaire.
C'est un très très bon point. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on a trop souvent tendance, en fait, à parler devant l'enfant, mais pas à l'enfant. Et donc, des parents qui seraient véritablement sensibles à ces questions-là et à l'avenir de leur enfant devraient véritablement avoir se concentrer sur l'idée de dialoguer avec l'enfant et d'avoir un vrai échange construit et riche, parce que là, ça fait vraiment la différence.
On peut maîtriser combien de mots vers 3 ans, Michel Mazot?
Oh oui,
c'est quoi le stock
tu
de
disais
mots
1000, même certains enfants, beaucoup plus, mais l'idée, c'est pas seulement une question de nombre de mots, je pense. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut parler à l'enfant et peut-être mettre des mots sur ce qu'il est en train de faire, sur les expériences qu'il est en train de faire. Pas seulement attendre que lui dise quelque chose. C'est souvent une erreur, c'est-à-dire que beaucoup de parents pensent que l'enfant, on lui parle, on peut vraiment... Quand l'enfant lui-même parle. Or, pas du tout. L'enfant, il emmagasine des tonnes de choses bien avant de pouvoir parler. Donc, de mettre des mots sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il est en train de ressentir, sur l'expérience qu'il est en train de faire, etc., c'est certainement le plus important.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment fonctionne le cerveau de l'enfant? Que faut-il en déduire pour simplifier, améliorer les apprentissages, aussi bien si vous êtes enseignant, si vous êtes parent? Mais tout de suite, reportage. Imaginez, c'est le début de la journée, les enfants viennent de s'asseoir en classe, mais sont-ils tous présents? Je veux dire, vraiment prêts à apprendre. On devrait toujours se poser cette question. C'est tout l'objet du programme de recherche ATOL pour Attentif à l'école, mené par l'INSERM. L'idée, c'est d'expliquer de façon scientifique aux enfants ce que veut dire se concentrer, ce qu'il faut faire pour y arriver, comme dans cette classe de CE2 à Francheville, en banlieue lyonnaise. L'institutrice Stéphanie Léautier-Massir consacre une demi-heure par semaine à un cours sur l'attention. Charlie Dupio, notre reporter, était présente.
Alors, on va faire comme les mercredis matins, on va débuter à Toll. Est-ce que dans la vie de tous les jours, quelquefois vous prenez un objet, vous le manipulez et vous vous rendez même pas compte que vous jouez avec vos mains et l'objet? Amaury.
Oui, quand on est dans la lune, et ben on fait bouger son stylo avec les doigts, parfois. Moi, des fois, je me rends pas compte que je tripouille un objet.
Des fois, tu fais autre chose. Par exemple, tu joues avec d'autres objets, tu n'écoutes pas.
La dernière fois, on avait parlé de quoi, Rosalie ?
Des neurones.
Et qu'est-ce qui les fait fonctionner, nos neurones ?
C'est notre cerveau qui les fait fonctionner.
Donc maintenant, on va essayer de se rappeler d'expériences qu'on a faites sans s'en rendre compte. Est-ce que à l'école ou à la maison, vous avez fait des choses sans vous en rendre compte ?
Moi, je dois descendre quelque chose. Je descends, mais j'avais oublié la chose. Donc du coup, je remonte.
Quand je regarde la télé, ma maman, elle me demande un truc et je l'entends même pas. C'est pas l'impression qu'elle me parle.
Moi, c'est par exemple à l'école, quand j'ai une dictée, par exemple, un moment j'ai fait une faute, mais j'avais pas l'intention de la faire.
Je vais vous poser des questions et on va essayer de voir si je réfléchis avant d'agir ou si c'est mon cerveau agit sans que je me pose de questions spontanément. Qu'est-ce que je fais si j'entends la porte de la classe qui s'ouvre ?
S'il y a quelqu'un qui fait... qui toque, je me retourne vite pour pouvoir aller, pour voir qui c'est. Et du coup, je suis plus avec la maîtresse.
Une fois, on avait fait calcul mental. À un moment, il y a eu la porte qui s'est ouverte. Donc, c'est comme si on avait un fil qui me projectait vers la porte pour voir qui c'était. Il y avait le bruit des élèves qui faisaient beaucoup de bruit ce jour-là. Et du coup, j'arrivais pas à me concentrer.
Je vais vous donner les petites images que Jean-Philippe Lachaud a dessinées.
Et là, c'est une image assez importante pour le programme, c'est la poutre dont on parle beaucoup.
Oui, la poutre est importante parce que c'est une image et c'est que lorsqu'on tombe de sa poutre, on perd l'attention. Et donc les enfants ont l'image mentale de je reste sur ma poutre, je vais droit devant et on travaille sur la longueur de la poutre pour travailler sur l'intensité de l'attention.
La poutre, c'est l'attention en fait.
Exactement. L'avantage du programme Atoll, c'est d'avoir beaucoup d'images mentales où les enfants, on crée des objets qui représentent l'attention, donc la poutre. Et spontanément, si on dit « sois attentif » ou si on dit à l'enfant « oh, je crois que tu es tombé de ta poutre », l'enfant ne ressentira pas ça comme un reproche. Il apprendra à voir s'il perd son attention parce qu'il y a du bruit, s'il perd son attention parce que l'activité est trop longue pour lui, s'il perd son attention parce qu'il est gêné par le mouvement des autres. Et dès qu'il aura perçu comment lui, il perd son attention, il arrivera plus facilement à savoir comment retrouver son attention. Il aura appris à se connaître.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Bon, les voisins, j'espère que vous suivez toujours, que vous n'êtes pas tombés de la poutre chez 7 milliards de voisins. On parle des mécanismes du fonctionnement du cerveau de l'enfant et comment en tenir compte pour les apprentissages avec Michel Mazot, Hervé Glazel. Quelles sont les connaissances scientifiques aujourd'hui sur l'attention, la concentration ? C'est pas tout à fait la même chose. Michel Mazot.
Alors, on a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est d'une façon générale d'ailleurs, ce que nous ont appris les neurosciences, c'est pas seulement qu'on fait attention ou qu'on ne fait pas attention, c'est comment ces mécanismes s'organisent au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'il y a toute une série en fait de mécanismes qui doivent se mettre en place très progressivement chez l'enfant. Tout le monde comprend qu'un enfant de 4 ans n'a pas la même attention, bien sûr, qu'un enfant de 8 ans. Et tous ces mécanismes, comment ils se mettent en place petit à petit ? Déjà, par exemple, choisir l'objet de son attention. Là, par exemple, je vous regarde, c'est vous l'objet de mon attention, mais il est certain que si mon téléphone sonnait, l'objet de mon attention pourrait changer. Donc ça, c'est déjà une chose importante et on sait comment ça se passe au niveau cérébral, comment ce choix s'organise ou pas.
Ça se voit en imagerie médicale,
le
phénomène de l'attention.
Oui, bien sûr, on connaît les circuits qui se mettent en route en fonction du choix de l'attention, ensuite de maintenir son attention. J'entendais là dans votre reportage un petit garçon, c'était amusant, disait si la porte s'ouvre brusquement, c'est quasiment automatique, on se rend compte que ça, c'est très difficile à inhiber, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de, si la porte s'ouvre, tout le monde se retourne pour voir de quoi il s'agit. Voilà. En même temps, ce qui est important, c'est peut-être pas tellement que tout le monde se retourne, c'est combien de temps ? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant va rapidement pouvoir revenir à ce que dit la maîtresse ou à son travail ou à ce qu'il était en train de lire. C'est plus ça qui est important dans l'équilibre sur la poutre. Est-ce que rapidement, il peut reprendre équilibre sur la poutre de l'attention ?
Hervé Glazel, ce n'est pas un sujet qu'on aborde d'habitude dans les classes ordinaires de l'éducation nationale, ce phénomène de l'attention, ou plutôt si l'enseignant, les parents disent « fais attention ».
Alors justement, en fait, tout le monde est assez, comment dirais-je, obsédé par cette question de l'attention, capter l'attention au fait de l'élève, de son enfant, et donc ça va perturber évidemment la classe ou l'enfant dans ses apprentissages s'il ne fait pas attention. La différence aujourd'hui, c'est qu'on peut explicitement aborder en fait ce sujet avec un certain nombre de connaissances fondées pour savoir comment fonctionne l'attention. Comme il vient d'être dit, d'abord, c'est une fonction qui va maturer très longtemps, jusqu'au jeune âge adulte, donc on ne pourra pas demander la même chose aux enfants, aux différents âges. Et puis ensuite, ça va être le rôle de l'enseignant, en fait, de mettre en place le contexte qui va favoriser, si vous voulez, l'attention.
Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos écoles du CERN, justement ?
Eh bien, justement, en fait, on va s'assurer, par exemple, d'éviter les distracteurs. Hein, on a parlé, en fait, de ces captures attentionnelles, un stylo qui tombe par terre, une porte qui claque, un klaxon, en fait, dans la rue. Donc, on va limiter les captures attentionnelles visuelles. On va éviter, en fait, de surcharger les murs, en fait, ou le tableau d'information. On va mettre en place des rituels de mise à la tâche. On va proposer...
Qu'est-ce que c'est, par exemple ?
Par exemple, en fait, d'abord, tout le monde rentre dans la classe, reste debout, silencieux, attentif, regarde l'enseignant. C'est qu'on se salue poliment et on s'assoit en fait dans l'ordre de façon à ne pas créer en fait trop d'agitation. Et puis, en fait, on va mettre en place des rituels de remise à la tâche, rappeler ce qui a déjà été fait et comment on va engager les prochaines étapes. Sachant que, effectivement, il va falloir régulièrement proposer des pauses cerveau, hein, parce que tous les enfants ne vont pas pouvoir se concentrer pendant...
Selon les âges, les pauses.
Alors, selon les âges, quand on arrive à l'adolescence, on peut obtenir 25 minutes, 5 minutes.
Hein. Il donc, faut 25 minutes d'apprentissage, 5 minutes de pause. Ça, c'est jusqu'à quel âge ?
Oh, je dirais, en fait, à partir du collège.
Oui. Et plus petit, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus de pauses.
Plutôt, hein, des séquences de 10 minutes.
Oui, à peu près. Mais enfin, il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de micro-pauses, je dirais, qui sont un peu informelles, que l'enfant, justement, s'accorde normalement et puis il reprend rapidement le fil du cours, de ce que dit l'enseignant ou de son... C'est un peu aussi l'intérêt d'être redondant, hein, quand on fait un cours ou quand on fait...
Est-ce qu'on peut rappeler les heures les plus favorables à l'attention et à la concentration? La concentration, c'est un degré supplémentaire d'attention, hein. C'est bien cela.
C'est une attention soutenue. Qui dure dans le temps.
Les heures les plus favorables.
Donc en fait, ça dépend de l'âge. Hein, on sait très bien en fait que les adolescents ont un décalage horaire, c'est-à-dire qu'en fait ils seront plus attentifs, plus vigilants un peu plus tard en fait que les enfants plus jeunes. Donc pour les enfants plus jeunes, le matin est évidemment en fait beaucoup plus favorable
pour l'école primaire. Donc
Toute l'école primaire, on aimerait en fait que les rythmes scolaires se décalent légèrement en fait à partir du collège et encore plus en fait quand les enfants sont adolescents. Il y a effectivement des moments privilégiés pour mobiliser l'attention des enfants, hein, et sachant que c'est le rôle aussi de l'enseignant de rattraper régulièrement l'attention de l'élève, du regard et du geste, et ce qui va vraiment pouvoir le soutenir.
Vous attirez l'attention, c'est le cas de le dire, Michel Mazot, sur le fait que souvent les exercices organisés par les enseignants ou les parents ne ciblent pas réellement l'essentiel, le pourquoi de l'exercice, et que l'enfant, comme il ne comprend pas réellement bien ce qu'on cherche à lui faire apprendre dans un exercice.
C'est-à-dire que l'enseignant, lui, ou les parents, souvent, ils savent très bien ce qu'ils ciblent, hein, mais ce n'est pas dit explicitement à l'enfant.
Entoure en vert, voilà, les verbes, alors,
y a souvent
et les noms
cet exemple,
en rouge.
Voilà, tu entoures les adjectifs en rouge et puis tu soulignes les verbes en vert. Et donc, moi, j'avais été très frappée de cette réflexion d'un enfant. Je lui disais, c'est difficile, ça, tu as l'air d'être... Et il m'a dit, oui, c'est très difficile de ne pas se tromper de couleur. Et donc, je trouvais qu'on ne lui a pas dit explicitement que le but de l'exercice, c'est de repérer les mots qui s'accordent en fait en français, c'est-à-dire qui changent. Hein,
dans, c'est pas dans la couleur fin, du change. Feutre, on est d'accord.
Voilà. Et ça, si l'enfant ne perçoit... Donc on insiste de plus en plus sur le fait qu'il faut explicitement dire aux enfants quel est l'objectif. C'est vrai aussi pour les devoirs, hein, souvent. Bah, qu'est-ce que tu as à faire? Bah, faut apprendre par cœur, faut apprendre.
Donc ne pas commencer l'énoncé en disant prends un feutre vert, prends un feutre rouge, mais on va commencer par comprendre, par réfléchir aux différences entre les verbes et les adjectifs.
Pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui s'accordent et pas? Comment on va faire? Ben montrez-moi que vous savez les reconnaître.
Et si on prenait des couleurs différentes?
Voilà.
C'est toute une architecture différente. Hein,
c'est une gymnastique importante et c'est ce que nous apportent les neurosciences.
Ça.
Si vous voulez, ce que nous apportent les neurosciences, c'est les grandes lois de l'apprentissage. Et une des premières grandes lois de l'apprentissage, c'est de focaliser l'attention de l'apprenant sur le bon objet de l'apprentissage. Parce que sinon, effectivement, l'enfant ou l'apprenant, même adulte, ne sait même pas sur quoi il faut focaliser son attention.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole dans quelques instants à un enseignant qui nous appelle de Guinée, c'est Lou.
7 milliards de voisins. parce que nous sommes tous des voisins.
Selou, vous êtes en direct avec nous, vous êtes à Koundara en Guinée, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu, vous êtes enseignant dans une école, vous êtes en CE2, c'est bien ça, vous avez des élèves de CE2?
C'est ça, oui.
Quelle est votre question, Selou?
Ma question est la suivante, donc j'aimerais savoir quelles sont les techniques à utiliser pour amener l'enfant à comprendre et permettre de garder longtemps en mémoire ce qu'il a.
Alors attendez, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. On m'a dit au centre que vous avez une question sur la mémorisation, c'est bien cela?
Oui, c'est bien ça. J'ai dit, bon, quelles sont les méthodes à utiliser pour permettre à l'enfant de bien mémoriser les leçons?
Oui, d'accord. Parce que vous avez des enfants qui, quoi, deux jours après, ne se souviennent plus de la leçon que vous avez passé du temps à expliquer, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alors, on est bien sur les mécanismes de mémorisation qui préoccupent beaucoup de parents, mémorisation à long terme, à court terme. Qu'est-ce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences là-dessus?
On sait beaucoup de choses hein, sur les mécanismes de la mémoire, donc ça c'est déjà une grande richesse. La mémoire en fait va passer par trois étapes, encoder une nouvelle information, la consolider si vous voulez à long terme, et avoir des mécanismes de récupération. Ça c'est déjà quelque chose en fait d'essentiel pour l'enseignant, il doit connaître en fait ces mécanismes-là. Parce que trop souvent on va dire à l'enfant « apprends ta leçon ». Mais en fait, l'enfant n'a absolument pas la moindre idée de comment il faut s'y prendre pour apprendre une leçon. Hein, sur quoi, en fait, finalement, focaliser son attention. Et puis, comment, en fait, encoder les informations utiles, comment les organiser, puisque la mémoire semble probablement infinie, si tant est qu'elle est organisée, et les moyens, en indiquant, en fait, les connaissances, de façon à pouvoir trouver un chemin pour les retrouver.
Mais à l'école, un enfant ne sait pas faire de fiches.
Non, quand ils sont petits. C'est pour ça que c'est ce que dit Hervé, très important. C'est-à-dire que c'est à l'enseignant d'organiser. Quand l'enfant est petit, hein, quand il a 7 ans, c'est à l'enseignant ou aux parents, quand il s'agit des devoirs, d'organiser le savoir pour l'enfant. Alors, il y a aussi une chose très importante pour la mémorisation quand même, qui est que l'enfant, au moment où il apprend, il doit être actif. On a beaucoup dit, il faut arrêter de lui dire « révise tes leçons », c'est-à-dire « lis et relis la leçon », ça n'a absolument aucune efficacité. Hein. C'est comme « fais attention », ça n'a aucune efficacité. « Relis la leçon », ça n'a aucune efficacité.
Ça ne sert à rien, il ne faut pas relire plusieurs fois sa leçon.
Non, une fois, ça suffit. Alors, ce qui a beaucoup d'efficacité, par exemple, on l'a montré, ça c'est vraiment très important, c'est de se poser des questions sur ce qu'on vient de lire.
Immédiatement, après la première lecture.
Tout de suite. Et donc, de prendre conscience tout de suite et d'avoir le retour. Retour tout de suite. J'ai la réponse, je ne l'ai pas, je me suis trompée, je ne me suis pas trompée. Hein, le retour sur l'information est très important.
Un enfant peut le faire seul, assez rapidement?
Non. Mais il y a des tas de petits systèmes, regardez, pensez, où on peut leur proposer ce qu'on appelle les flashcards. Vous savez, d'un côté, vous avez, je pense, apprenons des mots d'anglais, puisque nous sommes à l'école, en CE2, par exemple. Vous pouvez avoir un mot d'un côté, un dessin d'un côté, puis de l'autre côté, le mot en anglais. Donc, si vous avez le dessin d'un côté, l'enfant, il cherche quel est le mot en anglais, je ne sais pas, un oiseau, bird, je dis n'importe quoi, et derrière, il y a écrit quelque chose. Donc, il sait s'il s'est trompé ou pas, et il a la réponse immédiatement. Puis, la deuxième chose très importante pour la mémorisation, c'est les révisions. Il faut quand même répéter. Et l'intervalle entre des révisions. C'est très important de réviser et d'avoir un intervalle adéquat entre des révisions, selon que vous voulez vous rappeler des choses pour demain, ou pour dans 3 mois, ou pour toute la vie.
Le bachotage, la veille d'un contrôle, évidemment, c'est très préjudiciable, surtout s'il s'agit de savoirs fondamentaux qu'on va devoir utiliser tout le temps, notamment en mathématiques, Hervé Glazel.
Absolument. En fait, dans tous les domaines, si vous voulez, donc ce phénomène de consolidation, il prend du temps. Hein, et en particulier, il faut bien dormir, puisqu'en fait, sommeil et mémoire sont extrêmement liés. Donc évidemment, en fait, sur des notions complexes, il va falloir effectivement prendre de l'avance de façon à éviter effectivement les apprentissages de toute dernière minute. Donc l'idée qui vient aussi d'être évoquée, c'est que ça laisse le temps aussi d'avoir régulièrement en fait ce qu'on appelle un retour d'information, c'est-à-dire qu'on va régulièrement se tester soi-même ou être testé de façon à avoir un retour d'information en disant oui, j'ai bien avancé, non, je n'ai pas bien avancé. Ce sont des phénomènes en fait qui ont été prouvés, hein, qu'il vaut mieux en fait être plus régulièrement testé que d'apprendre plus longtemps, hein, de façon à mieux fixer en fait l'information.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. À quelques jours de la rentrée scolaire, on s'intéresse au fonctionnement du cerveau de l'enfant dans les mécanismes d'apprentissage. Nous prenons un auditeur dans quelques instants, c'est Garba qui nous appelle de Niamey.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Garba, vous êtes à Niamey, vous êtes instituteur, directeur d'école depuis une quinzaine d'années. Vous avez une question sur l'apprentissage du calcul, je crois, Garba.
Oui, effectivement.
On vous écoute, vous êtes en direct.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour également à nos invités. Bonjour. Donc, je disais effectivement que j'ai rencontré une de mes élèves qui a effectivement eu vraiment des tas de difficultés au niveau de l'apprentissage, notamment au niveau de la mathématique. Elle a vraiment des difficultés au niveau de la mémorisation des chiffres. Donc, vous savez qu'au CP1, donc, la numération va de 0 à 69.
Oui.
Mais je vous dis que vraiment, cette fille a vraiment des difficultés de mémoriser les chiffres même de 0 à 10.
Ah.
Et ce qui est pénible, j'ai effectivement passé pratiquement toute l'année derrière cette fille. Et vraiment, malheureusement, je n'ai pas pu débloquer cette situation-là avec elle, vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Garba? Peut-être vous avez besoin de renseignements complémentaires, je ne sais pas,
oui,
Hervé Glazel.
Oui, c'est intéressant, parce qu'évidemment, en fait, c'est probablement un symptôme. Il faudrait se poser la question de ce qu'il y a derrière, en fait, ce fait. La question, c'est que d'abord, en fait, ce que cet instituteur cherche à transmettre, c'est les mots-nombres. Comment on nomme, si vous voulez, certaines quantités. Est-ce que donc c'est un problème en fait de langage, hein? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de langage qui se situent ailleurs? Ou est-ce que c'est un problème de représentation des quantités? Est-ce que c'est un problème effectivement en fait de détection en fait de quantités faibles, par exemple 1, 2, 3, est-ce que l'enfant est capable de le nommer sans même compter? Voilà. Est-ce que c'est un problème aussi de séquence? Est-ce que l'enfant a du mal à encoder et donc à automatiser la suite en fait des mots-nombres ou à s'emparer en fait de leur écriture indo-arabe? Donc il y a probablement cette partie émergée du trouble scolaire, mais qu'est-ce qui révèle derrière? Il faudrait probablement aller un petit peu plus loin pour savoir si c'est un problème véritablement d'encodage verbal ou si c'est plutôt en fait un problème conceptuel. Est-ce que l'enfant a du mal à comprendre la notion de quantité?
Mais en général, on peut avoir des enfants qui parviennent parfaitement à apprendre à lire et qui n'arrivent pas à apprendre à compter, ou pas, Michel Mazot?
Alors, oui, on peut avoir des enfants qui ont un trouble très spécifique dans n'importe quel domaine. Donc, c'est aussi ce que nous ont montré les neurosciences, c'est que le cerveau est une espèce d'énorme toile, si vous voulez, d'énorme net, à l'intérieur de laquelle il y a des circuits organisés et très spécialisés pour telle ou telle fonction. Donc, ça, c'est très possible. Dans ce que dit monsieur, il est évident qu'il y a un trouble important, tout de même. Hein, monsieur raconte un trouble important. Donc, je pense que ce que dit Hervé est fondamental, c'est qu'il faudrait un bilan dans le domaine évidemment neuropsychologique, hein, de toutes les fonctions du langage, des représentations des nombres, etc., de façon à bien comprendre quels sont les mécanismes qui sont défaillants chez cette petite fille, parce qu'on ne peut pas l'aider uniquement en continuant à essayer de lui apprendre de la même façon que les autres, puisque manifestement, dans ce domaine-là, elle n'est pas équipée tout à fait comme tout le monde. Donc là, il va falloir essayer, je ne sais pas si monsieur a la possibilité de faire ses bilans pour cette petite fille, mais essayer de comprendre les mécanismes défaillants, parce que c'est ceux-là qu'il faudra viser par une remédiation,
ouais,
et une pédagogie particulière.
Quand, au bout d'une année, donc une petite fille ne parvient pas à compter jusqu'à 10, hein, puisque c'est le cas de Garba. Merci Garba de nous avoir appelé. Vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Hervé Glazel, vous avez parmi vos élèves, donc qui on rencontre des troubles des apprentissages, hein, ce qui ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas apprendre, hein, mais en tout cas, ils ont des troubles spécifiques. Vous avez des problèmes de lenteur parmi vos élèves?
Alors c'est un fait à peu près général, si vous voulez, des troubles d'apprentissage, qui sont révélés la plupart du temps par une lenteur, une difficulté de traitement qui va donc engager, si vous voulez, un coût cognitif, si vous voulez, supplémentaire pour l'enfant.
Dépense d'énergie, c'est
voilà,
ce que vous voulez
dire.
Voilà,
c'est une sorte de dépense d'énergie cognitive, hein, de traitement de l'information. C'est moins fluide, moins efficace, moins automatisé ou difficilement automatisable. Et donc l'enfant, en fait, sera plus lent et fera plus d'erreurs. Puisqu'évidemment, une autre loi de l'apprentissage, c'est de parvenir en fait de quelque chose qui est d'abord difficile, conscient, vers quelque chose de non conscient et automatisé. Et si l'enfant n'y arrive pas, nécessairement, en fait, il sera plus lent. Et donc là, à nouveau, c'est un symptôme. Hein. On ne pourra pas forcément dire d'emblée à quoi c'est dû, mais ça peut être une lenteur de lecture, une lenteur de calcul, une lenteur en fait d'écriture, mais qui va révéler, si vous voulez, le coût cognitif en fait du traitement.
On évite, l'enfant il est vite dans une spirale quand il est lent, hein, oui. Même s'il n'a pas de troubles spécifiques d'ailleurs.
Mais il a forcément, c'est jamais par hasard
fini,
que l'enfant
il a fini après les autres, donc il a loupé la récréation, la pause, etc. Il s'épuise de plus en plus.
Oui. Et je crois que c'est un trouble qui est beaucoup sous-estimé. On dit il est lent, il faudrait qu'il fasse plus vite, il peut pas. Hein. Ou s'il fait plus vite, c'est ce que dit Hervé, c'est-à-dire qu'il fait plus d'erreurs. Et de toute façon, il faut bien voir aussi que ces enfants plus lents sont beaucoup plus fatigables, parce qu'ils sont plus fatigués, puisqu'ils ont utilisé plus d'énergie pour faire moins bien que les autres. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire aussi bien si on leur laisse beaucoup plus de temps, et donc avec beaucoup plus de fatigue. Donc on rentre dans un cercle vicieux effrayant pour ces enfants, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très difficile à gérer au sein d'un groupe classe. Et plus le groupe est important, plus c'est difficile à gérer le fait qu'un enfant ait besoin de beaucoup plus de temps, ou plutôt, alors ce qu'on conseille souvent, c'est qu'il fasse un peu moins de travail, de façon à proposer qu'on lui donne une charge de travail qu'il puisse faire à peu près dans le même temps que les autres, c'est-à-dire de réduire un peu sa charge de travail, de façon à ne pas rentrer dans le cercle vicieux dont vous parliez.
Hervé Glazel, j'aimerais plus généralement que vous nous disiez comment s'organisent les apprentissages dans les écoles du centre Sérène. Vous travaillez beaucoup aussi sur la confiance en soi, parce que sur la motivation, ça aussi, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec les neurosciences sur la motivation, pourquoi certains enfants ne sont pas motivés, alors du fait parfois de leurs troubles, mais pas forcément.
Oui, tout à fait. La motivation, pour le coup, c'est en fait un concept complexe. Il est fait probablement d'une motivation interne, et peut-être aussi que c'est associé à certains éléments attentionnels, mais moi, il me semble en fait que la motivation, elle se réalise par le succès. Donc il faut que les enfants en fait conquièrent un certain niveau en fait d'efficacité à l'école pour que cette motivation se cultive et se développe.
Il y a des notes chez vous, parce alors, que le succès c'est les notes, hein. Tout le monde pense à notes quand vous parlez de succès.
Mais je suis d'accord, et quelque part les notes c'est un feedback, c'est en fait un retour d'information. On l'a dit, tester, ce n'est pas sanctionner, tester c'est donner un retour d'information sur la réussite. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, hein, mais effectivement il faut donner en fait un feedback. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner de 0 à 20, etc. On peut donner des lettres, des chiffres, des smiley, si vous voulez, mais l'idée c'est de donner un retour d'information aux enfants de façon à ce qu'ils sachent où ils en sont, sinon ils ne seront pas jugés de leur niveau de succès. Hein, ça me paraît très important.
Oui, en ce qui concerne la motivation, on peut compléter aussi avec, au niveau des parents. Beaucoup de parents disent l'enfant n'est pas motivé. En fait, il n'est pas motivé pour l'école. En général, il est motivé pour d'autres choses, hein, pour le foot ou pour les jeux vidéo. Hein. Et donc, l'idée, elle est aussi que beaucoup de parents pensent que gronder, punir, etc., va inciter l'enfant. Et en fait, on a beaucoup montré l'inverse, c'est-à-dire que c'est ce que vient de dire Hervé, c'est la réussite et au contraire, l'idée d'une récompense au sens, ouais. Il y a beaucoup de guillemets, hein, très large, c'est-à-dire d'une satisfaction, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'encourager les enfants, pas forcément parce qu'ils ont réussi, ils n'ont pas forcément une bonne note effectivement à l'école, mais parce qu'ils ont fait l'effort, parce qu'ils ont progressé, et donc qu'ils sentent que les parents sont à leur côté pour les aider à progresser. Ça, c'est quand même de très 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 important. On a beaucoup montré que le stress, l'anticipation d'une punition, d'une mauvaise note, etc., n'est pas du tout favorable aux apprentissages, au contraire.
Et en même temps, vous citez dans votre livre vous citez de nombreuses études, Michel Mazot, dans votre livre, mais une étude qui a montrer qu'une activité que des enfants pratiquent avec plaisir perd tout intérêt à leurs yeux s'il y a une récompense à la clé. Alors ça peut être surprenant.
Non, parce que la récompense... Je pense que là, il y a un quiproquo. C'est parce que si les enfants pratiquent cette activité avec plaisir, je ne sais pas, ils vont aider à tondre la pelouse, enfin je dis n'importe quoi, avec plaisir, le plaisir est la récompense. C'est ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire la réussite, le plaisir, c'est le moteur fondamental pour tout le monde. Hein, on dit pour l'enfant, mais enfin pour les adultes aussi. Donc si vous rajoutez là-dessus une récompense qui est artificielle,
voilà,
qui est extrinsèque, c'est-à-dire extérieure à l'enfant, en disant « Ah, ben, tu as bien tondu la pelouse, je vais te donner je ne sais pas quoi, des bonbons ou 50 euros ou je ne sais quoi », là, l'enfant est un petit peu pris à contre-pied, c'est-à-dire qu'il comprend que, en fait, ce qu'il avait fait avec plaisir n'était pas en fait un plaisir, qu'il s'est trompé sur le plaisir. Donc c'est peut-être assez maladroit. Par contre, si l'enfant n'a pas du tout envie de faire ses devoirs ou de tondre la pelouse, là, il peut être effectivement très bénéfique de lui proposer quelque chose qui va ressentir comme une satisfaction d'avoir tondu la pelouse ou, malgré tout, ou d'avoir fait ses devoirs malgré tout.
Vous dites
ça, c'est très important.
Et vous dites d'ailleurs que la récompense, elle doit être rapide, modérée et tenue.
Oui, et en lien quand même avec ce qui est demandé.
Promesse tenue.
Bien sûr, bien sûr. Et que il n'y a pas, finalement, personne ne se lance dans des activités compliquées et difficiles sans avoir de récompense. Et on a beaucoup montré, au niveau scientifique, comment ce circuit de la récompense, c'est un réel circuit neurologique, influait sur l'attention.
Qui a été étudié sur les rats, notamment.
Chez les humains.
Toutes les espèces, beaucoup d'espèces, bien entendu.
Et ça influe sur l'attention, ça influe sur la mémorisation, ça influe sur la motivation, etc.
Sur l'engagement dans la tâche. Et donc, quelque chose qui vient d'être dit, qui est essentiel, c'est aussi de valoriser l'effort, l'intensité qui a été mise dans la tâche et donc cet engagement plutôt que le résultat.
Et ça, donc, plutôt que la compétence, du coup.
Alors, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'au bout du compte, évidemment, le résultat soit là, bien entendu. Mais ce qui est dans le parcours d'apprentissage, qui est une dynamique, c'est pas simplement en fait obtenir un résultat du jour au lendemain. C'est véritablement cette démarche en fait qui doit être valorisée.
Ça veut dire dire quoi concrètement à l'enfant ?
Eh bien, tu as bien travaillé et donc c'est satisfaisant. C'est pas parce que tu as une bonne note ou tout est juste, mais c'est plutôt tu t'es bien en fait impliqué et donc tu as donné en fait l'énergie nécessaire pour aller au mieux en fait de ta réussite.
Et tu as progressé en général, c'est quand même mieux que ce que tu faisais la semaine dernière ou la dernière dictée ou je ne sais quoi.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une auditrice, Raïmatou, qui nous appelle du nord du Gabon. Bonjour Raïmatou.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous exactement au Gabon ?
Je suis dans la ville de Ntoul.
D'accord. Vous avez une question concernant le bébé ?
Ah oui, j'ai un bébé de 6 mois.
Oui.
Bon, en ce moment, il est très capricieux.
Oui.
Il ne veut pas que je le laisse même d'une seconde.
Mm-hmm.
Il préfère que je le câline et je joue avec lui.
Oui.
Et en ce moment, j'ai commencé un petit boulot.
Oui.
Donc, je suis obligée de l'emmener avec moi. Et même là, quand je travaille, eh bien, il n'entend pas de cette oreille. J'aimerais savoir si ça n'aurait pas de répercussions dans son développement.
C'est-à-dire que vous avez peur, si vous le laissez, si vous le faites garder pour aller travailler, vous avez peur qu'il y ait des répercussions sur le développement de son cerveau ?
Oui, bien sûr.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Merci en tout cas pour cette question, parce qu'effectivement, est-ce que la contrariété affective a une répercussion sur le développement du cerveau, Hervé Glazel ?
Alors, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, en fait, la déprivation en fait de stimulation sociale ou émotionnelle de qualité peut créer en fait des catastrophes.
Mais là, c'est pas le cas de Raïmatou. Hein.
C'est presque le contraire. Là, on entend en fait une maman extrêmement attentive, impliquée, observatrice, et donc quelque part là-dessus, il y a absolument aucun risque, si vous voulez, que cet enfant en fait puisse mal vivre ses premiers mois, au contraire.
Bon.
Cependant, en fait, il faut se poser la question, pourquoi est-il irritable ? Pourquoi est-il en fait agité ? Pourquoi a-t-il ce besoin-là ? Et peut-être que c'est passager. Il faut savoir que le nouveau-né, en fait, a un besoin d'interaction sociale massif. Il est extrêmement dépendant, en fait, de son entourage, et donc, il est très attaché à sa maman. C'est une très belle nouvelle.
Il faut lui expliquer au bébé, dans ces cas-là ?
Je ne sais pas s'il faut lui expliquer avec la question n'est pas tellement celle des mots que peut-être celle des attitudes et tout ce qu'on transmet au bébé, à la fois par les mots, mais par son attitude. Les bébés, oui, sont passionnés par les êtres humains, ils en ont besoin en permanence, donc ils réclament sa maman en permanence, ça me paraît plutôt une bonne chose. C'est vrai, ça n'empêche pas, la plupart des bébés sont aussi gardés par d'autres personnes que leur maman en alternance. Les bébés ne confondent pas leur assistante maternelle ou leur nourrice et les mamans. Donc, ce qu'ils ont besoin, c'est de ces interactions sociales en permanence. Donc, c'est surtout ça.
Pour que le cerveau se développe.
Voilà, mais il n'y a aucun risque particulier et que ce bébé réclame sa maman me paraît plutôt bon signe, si vous voulez.
Bon, voilà la réponse pour Raïmatou. Avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur une polémique polémique depuis quelques mois sur les neurosciences, puisque vous êtes d'ardent défenseur des neurosciences, ou plutôt sur l'utilisation politique des neurosciences par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour notamment réduire les inégalités sociales entre les élèves. On a lu des écrits de pédagogues, de psychanalystes, de sociologues, d'historiens même, qui disent que les neurosciences ne servent à rien pour comprendre les apprentissages, parce que les apprentissages sont essentiellement dépendants des relations familiales, des relations sociales, de l'affectif finalement. Qu'est-ce que vous répondez l'un et l'autre, Hervé Glazel ?
Je pense d'abord que c'est une polémique qui est mal posée. Et tout d'abord, en fait, les neurosciences, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train en fait, de s'appuyer sur un corpus fermé de connaissances, mais au contraire sur une démarche. L'idée aujourd'hui de ce qu'on dit, c'est que en fait, l'éducation n'est pas simplement, si vous voulez, une sorte d'art, mais c'est aussi, en fait, on peut l'utiliser, le voir comme un objet de la science et de pouvoir extraire les bonnes pratiques éducatives, celles qui ont en fait un impact, et de pouvoir véritablement faire le tri entre ce qui a un sens et ce qui n'en a pas. D'accord ? Ce n'est pas non plus, en fait, une approche qui est exclusive, si vous voulez, de l'ensemble des autres niveaux d'analyse. Évidemment, un enfant, il est fait de biologique, il est fait de cognitif, d'affectif, c'est une personnalité. Oui. Il y a aussi des éléments culturels, familiaux. Aucune de ces dimensions ne doit être, remise de côté. En revanche, si vous voulez, cette dimension cognitive, elle existe, elle est au cœur des apprentissages. Il serait un peu étrange, si vous voulez, de ne pas mobiliser ces connaissances-là au service de l'éducation.
Et que disent les neurosciences, Michel Mazot, sur les facteurs sociaux, sur, par exemple, sur l'absence de stimulation intellectuelle dans certains milieux, par exemple, des familles où on ne parle pas à l'enfant, on n'entend pas parler
ou... Deux choses. Les neurosciences, d'abord, ne disent pas quelque chose sur tout. Elles disent effectivement sur le développement du cerveau et sur le fonctionnement du cerveau. Pour reprendre sur cette polémique, effectivement, qui a lieu entre neurosciences, je dirais, et sciences de l'éducation au sens psychologique du terme.
Qui prend racine essentiellement quand même sur le problème des inégalités sociales en France, parce que la France a de mauvais résultats à l'international.
La question, elle n'est pas
sur les élèves les plus faibles, qui sont aussi les élèves les plus pauvres.
Remplacer les relations humaines par les neurosciences, elle est d'enrichir le savoir des pédagogues qui effectivement sont des spécialistes des relations avec l'enfant, avec la connaissance du fonctionnement cérébral. C'est quand même deux choses différentes. C'est pas ou fromage ou dessert, c'est les deux là. C'est vraiment un enrichissement de l'un par l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait parler d'apprentissage ? Là, on a la chance depuis une cinquantaine d'années, mais surtout depuis les 20 dernières années, de mieux comprendre comment le cerveau de l'enfant apprend, c'est-à-dire comment chaque apprentissage modifie le cerveau de l'enfant. C'est ça qu'il faut comprendre. Le cerveau de l'enfant, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en permanence modifié justement par les relations, par les interactions avec l'environnement,
donc,
par les
apprentissages. Et la famille, donc.
Mais bien sûr.
Et bien entendu, c'est l'ensemble de l'environnement en fait qui compte. Et on a envie de dire que, au contraire, cette réflexion, cette démarche, elle est justement là pour réduire les inégalités. Parce que qui sait qui finalement en fait qui parvient à compenser les manquements de l'école, ce sont en fait les parents qui appartiennent à des catégories privilégiées, qui ont eux-mêmes fait des longues études, qui connaissent les clés de l'école. Donc en fait, toute cette démarche de réflexion basée sur les preuves, c'est pour éviter, si vous voulez, la dérive entre en fait des enfants qui obtiendront d'une manière ou d'une autre les compensations nécessaires et le complément d'information et ceux qui justement n'auront pas ce bénéfice.
Il faudrait encore en parler pendant des heures. Hein. Merci à tous les deux en tout cas. Michel Mazot, médecin spécialiste des troubles cognitifs chez l'enfant. Vous avez publié Dans le cerveau de mon enfant et Bien apprendre à l'école.
Avec la collaboration bien sûr d'Alain Pouet,
exactement.
Qui est le co-auteur de ces deux ouvrages.
Et il y a quelques années, vous avez d'ailleurs publié ensemble avec Hervé Glazel, Conduite du bilan neuropsychologique, ça c'est un guide pour les professionnels. Merci à tous les deux, merci Hervé Glazel donc du Centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Bonne rentrée pour la nouvelle école à Lyon, c'est cette semaine.
Tout à fait, c'est imminent.
Voilà, imminent. Vendredi prochain, notre émission sera consacrée à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, parce que là il faut au moins une heure, avec beaucoup de conseils pratiques. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, pourquoi les adolescents mentent.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre qui dirige la revue transculturelle L'Autre. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour Emmanuel.
Notre chronique, comme chaque vendredi ou presque, c'est parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Il y a quelque temps, vous nous parliez du mensonge des enfants. Aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur les mensonges des adolescents. Ce n'est pas la même chose. Ils mentent souvent pour des raisons différentes. Mais pourquoi donc les adolescents mentent eux aussi parfois?
Oui, alors effectivement, nous avons vu que chez les enfants, c'était vraiment pour différencier rêve et réalité, jouer avec cela. Et il arrive qu'après, donc après, les enfants acquièrent en général la capacité à bien différencier les choses, et le bien, le mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et puis à l'adolescence, ça réapparaît. Et là, c'est vraiment, ça a une signification bien différente. À l'adolescence, c'est-à-dire après 14-15 ans, mentir, c'est vraiment s'opposer, se différencier, voler des moments où personne ne sait où vous êtes, où personne ne sait ce que vous faites, et c'est donc, vous êtes le seul maître à bord. Je pense par exemple à Isalide qui a 14 ans et qui a l'autorisation d'aller sortir pour aller au cinéma avec sa copine, et puis au lieu d'aller au cinéma, elle va au café. Bon, oui. Elle boit un Diabolo menthe, elle rentre chez elle 2 heures plus tard, sa mère lui dit « Alors, quel film tu as vu ?» Et là, elle invente un film qui n'est pas sorti en réalité. Elle l'avait entendu à la radio, mais le film n'était pas sorti. La mère dit « Mais enfin, ce film n'est pas sorti, pourquoi tu mens ?»
Et donc, une fois donc plus, la mère s'inquiète. Donc.
Et oui, une fois de plus, tu mens. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cette notion. Et oui, elle s'inquiète. Et elle s'inquiète d'autant plus qu'elle a l'autorisation de sortir. Mmh. Donc, elle m'explique que alors que sa mère la croit au cinéma, aller ailleurs, c'est une idée vraiment de liberté. Ça lui donne une idée de je fais, je décide, voilà, j'ai décidé. Et c'est une sorte de moment volé, de moment caché, qui lui permet au fond d'exercer sa liberté.
Ouais. Le mensonge finalement pourrait prouver le frisson des petites transgressions. Mais est-ce que dans ces cas-là, il faut confronter les adolescents à leurs propres mensonges?
Oui, c'est ça, c'est un processus d'autonomisation. Alors, c'est un peu pareil que pour les enfants. Si c'est des petites choses, je crois qu'il ne faut pas les confronter. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette expérimentation. Il faut les laisser, là aussi, par exemple, Isalide au café au lieu du cinéma. Bon, tout ça n'est pas très grave. Et ça lui permet d'expérimenter, de s'autonomiser, quand c'est des objets anodins. Alors évidemment, si c'est pour prendre un risque majeur, bah, ça fait partie à ce moment-là des limites. Donc c'est effectivement une transgression, mais les parents, ça c'est la fonction protectrice des parents, doivent doser cette transgression. Et puis en fonction de l'âge, évidemment, on ne fait pas la même chose. Chez un grand ado, le mieux c'est de ne pas essayer de savoir où il était à cette heure-là, c'est-à-dire de l'autoriser, de considérer que légitimement, il peut décider sans aucun contrôle.
L'autoriser à avoir une certaine zone grise, finalement.
Oui, une autonomie totale. Quoi.
Oui, en imaginant, en faisant confiance qu'il ne prend pas de risques, qu'il ne va pas, par exemple, prendre de drogue, etc. Mais vous admettez, Marie-Rose Moreau, que le mensonge est toujours une source d'inquiétude pour les parents.
Eh oui, mais c'est aussi une source de différenciation. Alors, se séparer de nos enfants, ça nous inquiète forcément un peu.
Voilà, c'est bien philosophique. Merci à vous, Marie-Rose Moreau. Et si nous aimions nos ados, c'est publié chez Bayard, c'est un de vos livres au sujet de l'adolescence. On se retrouve très prochainement pour la chronique Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La prochaine fois, on se posera la question, est-ce que l'adolescence existe partout dans le monde ? Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site rfi.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Et bien sûr, nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, si vous êtes fan de séries, si vous les regardez en rafale, des nuits entières. Je vois Hervé Glazel qui acquiesce. Et vous n'êtes pas fatigué le matin? Non, 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 il continue. Il reprend sa journée, eh bien l'émission est pour vous. Pourquoi sommes-nous accros aux séries? On attend bien sûr vos témoignages sur vos séries préférées. 33 1 84 22 71 71 et on essaiera de comprendre pourquoi, quelles sont les meilleures séries.